Bienvenue dans cette énième balado, les salles du français. Guillaume Raté-Côté encore avec vous pour discuter avec un invité de la langue française sous toutes ses coutures. Nous sommes avec un député fédéral aujourd'hui, celui de Lévis-Bellechasse, les Etchemins. J'ai nommé Stephen Blainey. Bien le bonjour, merci d'être avec nous, monsieur le député.
Ben, c'est un plaisir d'être en onde avec toi, Guillaume, et puis de parler de ce qui nous unit aujourd'hui par la voix des ondes, c'est-à-dire notre langue qui est un pilier important de notre identité. Puis tu me rappelles que j'ai déjà été ministre de la francophonie, fait que regarde, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Ça va assurément venir sur le tapis, mais on commence toujours par les premiers pas, la genèse, comme j'appelle toujours. Comme député, vous avez une conscience sociale, évidemment, et donc une connaissance des réalités qui peuvent être plus problématiques dans notre société. Et si on remonte dans le temps, ça peut ressembler à quoi les premières prises de conscience sur la réalité du français au Québec et ses difficultés pour vous, M. Blainey?
Ben écoute, moi j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce et puis j'échange avec celui qui allait devenir mon beau-frère, Jean. Puis on se dit, c'est quoi l'avenir du français si on continue à écouter la télé en anglais et puis on oublie notre langue pour justement parler la langue, en guillemets, des affaires nord-américaines.
Dominante.
Donc, c'est le phénomène d'assimilation. On le sent moins au Québec, surtout dans la région de Québec, dans la Beauce. Mais ça a été une première prise de conscience. Et ça se passait à peu près au même moment où on avait le gouvernement de René Lévesque qui est venu au pouvoir.
Okay.
Et on sentait le besoin de... comme collectivité, de protéger notre langue. Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, Guillaume, pour moi, la langue, c'est aussi la culture. Ça vient avec une culture, ça vient avec notre identité. Mmh. Puis on se rappelle qu'un des moteurs, on sait qu'au Québec, on a été bien divisé à l'époque à savoir si on devait, le Québec, être un pays indépendant. Puis souvent, un des arguments clés de ça, c'était de dire, bien, si on a un pays indépendant, on va pouvoir protéger notre langue, notre culture.
Voilà.
Et c'était un des arguments massus, souvent, du discours nationaliste, voire souverainiste, de dire, bien, si le Québec se sépare, on va être capable de protéger notre langue, notre culture.
Sans ça, il y a quand même eu des efforts intéressants, notamment la loi 101. Je voyais tout à l'heure dans ma préparation que vous êtes né en 1965. Vous devez donc avoir des souvenirs dans la fin de l'enfance de la venue de cette loi-là, mais l'appréciation aussi par la suite. Parlons de la loi 101 un peu.
Ben, en fait, j'ai même un souvenir de la loi 22, mon cher, parce que j'étais à l'époque à Sherbrooke et il y avait une polyvalente, il y avait eu des manifestations de protestation. Et il faut dire qu'en 60 la loi 22, elle avait été adoptée en 74, on n'était pas très loin du mouvement un peu du Front de libération du Québec. Donc, il y avait une certaine fièvre, une certaine ferveur. Et ce qu'a fait la loi 101, ça va exactement dans le sens de faire en sorte que Camille Lorrain, hein, c'était le ministre à l'époque qui a déposé la loi, et on se rappelle que c'était un docteur et un psychiatre.
Oui.
Et lui disait justement, les Québécois ont cette crainte-là de ne pas être capables de protéger leur langue et leur culture par le fait même. Donc, en instaurant la charte la charte de la langue française, c'était une façon, quasiment, c'était comme sa prescription pour, en fin de compte, démontrer qu'on était capable de se donner des outils pour protéger notre langue. Et c'est ça, la loi 101. C'était un geste politique fort qui, en quelque sorte, a permis de démontrer qu'on était en mesure de se donner des outils pour protéger notre langue et notre culture, même à l'intérieur de l'ensemble canadien.
Ben
évidemment,
oui.
Précise, c'est un député conservateur, donc fier québécois,
fédéraliste,
et qui pense que le Québec peut s'épanouir au sein du Canada.
Mais
et c'est ce que la loi 101, c'est ce que la charte de la langue française adoptée par l'Assemblée nationale le 26 août 77 a permis de faire, c'est qu'elle a permis de faire en sorte que la société québécoise se donne des outils pour dire, est-ce qu'on peut protéger notre identité, notre culture, et faire en sorte que la langue, la première langue au Québec, soit le français.
Très intéressant le côté psychologique avec le docteur Lorrain dans tout ça. Pour ce qui est de ce qu'elle est maintenant, la loi 101, on la qualifie de gruyère à certaines occasions. Est-ce que, à votre opinion, je sais qu'on l'a dit, vous êtes au fédéral, mais par exemple, là, on vous nomme premier ministre du Québec demain matin, vous auriez des considérations sur cette loi-là pour la regarder de plus près une autre fois? Est-ce qu'il devrait y avoir du mouvement ou au moins une réévaluation de la loi 101 à court moyen terme au Québec?
Oui, effectivement, comme toute loi doit évoluer, déjà notre nouveau chef, Erin O'Toole, un des premiers gestes, un des premiers mouvements qu'il a fait, des premiers engagements qu'il a pris lorsqu'il a rencontré le premier ministre François Legault, c'est qu'il a dit qu'il voulait renforcer le caractère distinct, je dirais, de la société québécoise, pour emprunter un langage un peu nationaliste. Mais en parallèle à ça, il faut se rappeler aussi qu'au niveau fédéral, la langue a joué un grand rôle. Et en 1969, donc c'était quand même 8 ans avant l'adoption de la loi 101, le Canada s'était donné la loi sur les langues officielles.
Ouais.
Qui a été modernisée en 1988 par Brian Mulroney et qui, là, a besoin aussi, elle aussi, d'être revampée. Fait que je te dirais, je vais laisser le soin aux politiciens québécois de moderniser la loi 101. Et à cet égard-là, nous, on est prêts à faire en sorte qu'une des... Une des particularités, c'est qu'on sait qu'on a au Québec, on a des institutions à charte provinciale, des institutions à charte fédérale, comme les banques.
Ouais.
Et ces entreprises-là ne sont pas assujetties actuellement à la loi 101. Mmh. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre chef, Erin O'Toole, a dit effectivement, les banques, il faut dire qu'ils le font déjà de façon volontaire, mais pourraient être assujetties de manière légale à la loi 101, même si ce sont des entités à charte fédérale.
Est-ce que c'était est-ce que c'était seulement pour les banques ou ça allait aussi pour la navigation, d'autres domaines?
Je pense que oui. Compte. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, sur le territoire du Québec, la loi 101 devrait s'appliquer, peu importe que l'entité corporative soit à charte provinciale ou fédérale. Donc, on est d'accord avec le principe que les entreprises qui relèvent du gouvernement, disons, de la loi, des entités fédérales, soient assujetties à la loi 101. Et ça, on l'a vu, ça doit sûrement chatouiller le premier ministre, parce que hier, le premier ministre actuel, puisque hier, les libéraux ont fait mention de l'importance de soutenir la langue française, non seulement au Québec, mais partout à travers le pays. C'est sûrement pas étranger à la prise de position de notre chef Erin O'Toole, puisque là, les libéraux voient bien qu'on vient faire preuve d'une belle ouverture, et là, ben, ils sont un peu à la remorque, non seulement sont à la remorque dans le cas de la loi 101, qui devrait s'appliquer sur l'ensemble du territoire québécois, mais également de la modernisation de la loi de la loi sur les langues officielles.
Ouais.
Et ça, c'est l'autre chantier, si tu veux, sur lequel moi je me penche depuis plusieurs années. C'est donc de moderniser la loi sur les langues officielles. Et ça, nous, on dit que pour continuer à faire en sorte que le Québec soit un foyer, si tu veux, de culture et d'identité de langue française, on doit continuer à appuyer ce qu'on appelle les communautés de linguistique en situation minoritaire, les CLOSM, comme ils les appellent. On a toutes sortes d'acronymes en fédéral. Mais donc, on se dit, ça pourquoi? Premièrement, parce que la dualité linguistique, c'est un facteur de l'identité canadienne, d'une part, et d'autre part, parce que, Guillaume, c'est un vecteur de développement économique. Au Manitoba, par exemple, s'ils veulent attirer des immigrants, c'est une flèche de plus à leur arc. Ils sont capables de dire, venez-vous-en à Saint-Boniface, vous allez vous penser à Saint-Hyacinthe, vous allez être capable de travailler en français, apprendre l'anglais, mais, par exemple, si on prend, par exemple, des immigrants de souche de langue française, ça leur permet de les attirer, et ça leur permet en même temps de rayonner. On pense, par exemple, au Canada, qui fait partie du Commonwealth, et de la francophonie. Donc, on a au plan international un avantage, justement, à nourrir, entretenir et renforcer notre dualité linguistique.
Intéressant. Juste pour situer les auditeurs, nous sommes le 24 septembre 2020. Hier, c'était le fameux discours du trône après la prorogation et il y a eu une adresse à la nation. Et effectivement, M. Trudeau a parlé des langues officielles sans nécessairement pointer de mesures concrètes. Effectivement, que ça sentait un peu la réaction à cette ouverture du Parti conservateur sur l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Mais parlant de M. Trudeau, quand même, le papa, le premier qui a été premier ministre, a fait du Canada un pays officiellement bilingue. Si je vous demandais une raison d'applaudir un Trudeau, j'imagine que ça serait la première de votre liste. C'est une bonne mesure qui a été faite.
En fait, j'étais ministre de la francophonie lors du 40e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Okay. Et c'est une loi, comme je disais, qui fait partie de l'identité canadienne. Donc, nous, on reconnaît que, en fait, je pense que c'est une grande richesse qu'au Canada, qu'on ait cette dualité-là. Des fois, on dit, surtout pour nous, les Québécois, disons, de langue française, c'est plus facile de se différencier des Américains puisqu'on a une langue, une culture, on chante des petites chansons françaises, on chante les Chevaliers de la Table Ronde. Peut-être qu'ils ne chantent pas ça en anglais, mais pour nos compatriotes canadiens, le fait qu'il y ait cette dualité-là linguistique, c'est un facteur qui les qui nous permet, je dirais, comme Canadiens, de se différencier des Américains. Fait que c'est devenu un des facteurs identitaires importants, à mon avis, de l'identité canadienne. Et c'est la raison pour laquelle on l'a renforcé avec Brian Mulroney et que là, on demande une modernisation de la loi sur les langues officielles pour la renforcer, pour faire en sorte également qu'il y ait certains... on a un commissaire aux langues officielles au Canada qui fait un très bon travail, mais des fois, c'est le fun d'une carotte, mais ça prend un bâton aussi. Ouais. Donc, on veut lui donner des outils. On veut que des outils pour être en mesure, parfois, de prendre des mesures, je dirais, coercitives pour, par exemple, demander à des organisations de faire respecter la loi sur les langues officielles, d'une part, puis d'autre part aussi, on veut s'assurer que le français rayonne et qu'il est soutenu, par exemple, quand il y a des communautés. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Ontario et les jeunes avaient besoin d'avoir des écoles françaises. On veut que ces communautés-là soient soutenues.
Vous avez parlé d'organisation. On va y aller sur l'organisation de la francophonie, de laquelle vous avez été responsable avec le recul aujourd'hui. Considérez-vous qu'il y aurait beaucoup de choses à améliorer là-dedans, à changer la gouvernance, la façon de procéder, parce qu'on entend que le travail sur la valorisation du français dans le monde n'est pas nécessairement fait pour les investissements que ça coûte. C'est pas non plus ce qui est le plus onéreux de l'histoire, mais il y a quand même des millions de dollars qui vont là-dedans et il y a des critiques avec le recul, l'organisation de la francophonie, des réformes. Un grand besoin, un petit besoin?
Oui, écoutez, je vous répondrai essentiellement. La francophonie est mûre pour ce qu'on appelle un virage économique, un virage de développement, de maillage. On sait, il y a beaucoup de pays d'Afrique. On voit, par exemple, présentement, l'influence de pays, pour ne pas les nommer, par exemple, comme la Chine. En Afrique. Les plus grands locuteurs de France, le continent où on trouve le plus grand nombre de locuteurs français, c'est l'Afrique, justement, parce que probablement on envoyait des missionnaires là-bas à l'époque. Et évidemment, il y a eu le travail de la France, mais il y a également eu du travail fait par le Canada français, si je peux me permettre. Donc, il y a tout ce potentiel-là à exploiter. Et également, c'est un vecteur de démocratie pour moi, qui est important, surtout quand on considère qu'il y a on vit dans un monde multilatéral où les grands joueurs comme les États-Unis ont un rôle qui est moins prédominant qu'il l'a déjà été. Donc, oui, les organisations multilatérales dont le Canada excelle, dans laquelle le Canada excelle, là, que ce soit au niveau du Commonwealth ou dans ce cas-là de la francophonie, il y a un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer de promouvoir la démocratie, les valeurs démocratiques, et également par le biais d'échanges économiques. Donc, pour nous, c'est clair que c'est un levier important, parce qu'il faut se rappeler que des organisations internationales, on parle parfois des Nations Unies, il n'y en a pas un si grand nombre qui regroupe un grand nombre de pays. Donc, la francophonie, souvent, c'est un bon pool pour tester des idées. On pense, par exemple, par le passé, au niveau culturel, on a vu qu'on a pu protéger, par exemple, tout ce qui touche à l'identité culturelle nationale. Dans ce cas-là, c'était par rapport à l'impérialisme américain. Donc, il y a des possibilités assez grandes avec la francophonie de répercuter ça un peu, autant au niveau économique, et je reviens un peu aussi là-dessus, les valeurs démocratiques qui, à ce moment-ci, me semblent fragilisées là, par la mouvance mondiale.
Il n'y a pas de doute. Vous mentionnez le Commonwealth. Est-ce que vous considérez que les efforts qu'on investit dans cette organisation-là versus la francophonie, c'est juste ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Est-ce que ça pourrait être plus égalitaire ou c'est quand même bien équilibré?
Oui, je vous dirais qu'il y a un bon équilibre puisque quand même, il y a des organisations aussi, il y a l'Association parlementaire des francophones, on a les parlementaires québécois qui sont impliqués, il y a beaucoup d'organisations, il y a quand même beaucoup de travail qui se fait. Puis si on prend un résultat concret, souvent ça dépend beaucoup du leadership des gens qui sont en place. Mais on se rappelle que si on parle du Commonwealth, c'est grâce, puis là, je prêche encore pour ma paroisse conservatrice, mais c'est sous l'impulsion d'un premier ministre conservateur, Brian Mulroney, qui a tenu tête dans ce cas-là à la Grande-Bretagne, où on a pu finalement mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, on peut parfois faire des poussées intéressantes. Je parlais tantôt de valeurs démocratiques. On en a un exemple flagrant, là, où c'est vraiment là, les droits fondamentaux là, des Sud-Africains de couleur noire là, qui ont été, restaurés, si on peut dire, là, avec l'abolition de l'apartheid. Et ça, là-dessus, le rôle de Brian Mulroney du Commonwealth a été indéniable là, pour mettre des pressions, voire des sanctions économiques, justement, pour que l'Afrique du Sud là, mette fin à ce régime-là.
Intéressant. Parlant de Brian Mulroney aussi, une chose qu'il a fait pour le français, qui est peu connue, c'est avec le libre-échange, il s'est arrangé pour que les produits aient de l'étiquetage en français partout en Amérique du Nord. J'ai remarqué ça récemment. J'écoutais un discours de Donald Trump à CNN, puis je voyais derrière, c'était des laveuses, et c'était écrit en français. C'est quelque chose, ça peut paraître anodin, mais ça génère un peu de fierté quand, mettons, on se trouve dans un pays, le Mexique ou le Canada, les États-Unis, ailleurs qu'ici, puis on prend un produit sur une tablette, on voit ça en français comme ça. Puis ça aussi améliore la connaissance hors Québec du fait francophone en Amérique du Nord. Et vous avez côtoyé bien des gens en Amérique du Nord dans les différents rôles que vous avez occupés, des politiciens, souvent unilingues anglophones. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes ou des moments où vous avez peut-être fait découvrir qu'il y avait une province où tout se passe en français dans ces juridictions-là, cette zone-là qui est l'Amérique du Nord. Puis en plus, avec votre nom, Stephen Blainey, on ne s'imagine pas que vous êtes locuteur français de si bonne qualité. Nécessairement.
Avec quelques anecdotes en rafale, c'est l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne que j'avais accueilli lorsque j'étais ministre des Anciens Combattants au pied du monument des soldats tombés au combat.
Okay.
Et c'est de coutume lorsqu'un premier ministre vient qu'il vient déposer une couronne de fleurs et au pied du monument des Anciens Combattants. Et comme ministre des Anciens Combattants, je l'avais accompagné.
Okay.
Et je dois dire que c'était recueilli avec beaucoup de respect.
D'intensité.
Et vous savez, des fois, on dépose la couronne, on reste une fraction de seconde, on se tourne les talons, puis on va vaquer à nos occupations. Mm-hmm. Mais il est resté un peu plus longtemps.
Okay.
Je dirais en pause un peu méditative. Et ça m'a touché. Et je me suis dit, quelqu'un qui prend le temps de payer respect à des Canadiens de toute convertie qui sont allés tomber, que ce soit lors de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième, ça m'a rempli de respect. Et en sortant, il avait dit, il y a juste au Canada un gars qui s'appelle Stephen Blainey, s'exprime en anglais avec un accent français. Et là, évidemment, on parlait d'assimilation. Bien, les Irlandais qui sont arrivés en 1830 ici au Québec ont choisi la langue française. Mon père parlait encore anglais dans sa famille, mais le français était vraiment la langue, je dirais, dominante, et c'est ça la force d'attraction d'une langue. Et ça, c'est le grand défi qu'on a, c'est de maintenir l'attractivité de la langue française. Et surtout, on voit avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des plateformes numériques, où on a beaucoup de contenu qui est possible pour nos jeunes en anglais, c'est un grand défi de maintenir l'attractivité de la langue française. Fait que ça, c'était une petite anecdote.
C'est
mais
fun.
Je vous en glisse une autre. C'était celle-là, elle touche plus M. Harper. Okay. M. Harper était au sommet sommet des Amigos, des trois Amigos avec le président mexicain et M. Obama. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais dit à M. Harper, oubliez pas, M. Harper, que c'est important de parler français. Alors, on était à Monterrey, au Mexique, avec le président mexicain Peña Nieto et le président américain Barack Obama. Donc, c'était une belle... Je dois vous dire que comme Québécois francophone, j'étais bien fier de voir que il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle qui comprenait, à part quelques francophones.
Très sympathique. On revient chez nous. Le problème, peut-être, est principalement à Montréal. Et beaucoup de gens pointent du doigt l'immigration. On aime bien être en mode solution ici à la station et dans les salles du français en général. On entend à l'occasion des possibilités qu'il y ait des très forts incitatifs, pour ne pas dire des fois des restrictions de zones d'accueil, donc en d'autres mots, forcer des fois les immigrants à s'installer ailleurs que dans les métropoles? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est envisageable et pourrait être bénéfique?
Bien, en fait, quand on touche à l'immigration, on touche à un grand volet d'accroissement démographique. On sait que ça joue un rôle important. Mais il faut rappeler encore là que notre gouvernement conservateur, un gouvernement conservateur, pas celui dans lequel j'ai fait partie, mais celui de Brian Mulroney, c'est en 1991, a fait un accord avec le Québec pour transférer l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration pour permettre à Québec de choisir ses immigrants pour justement préserver le caractère français. Ça fait que ça, c'est une première chose. Donc, le Québec a les coups d'effrange pour accueillir ses immigrants. Maintenant, l'autre défi auquel on fait face, c'est que de plus en plus, on a besoin de nouveaux arrivants en région, comme ici à Lévis ou même dans Bellechasse.
Ben oui.
Et malheureusement, on est en temps de pandémie actuellement. Les délais s'allongent, ce qui fait que on fait venir seulement les travailleurs ici pour une période de 2 ans, juste le travailleur. C'est déjà très long pour qu'ils viennent. On peut les reprolonger de 2 ans et à la suite de ça, ils peuvent engager un processus de citoyenneté et faire revenir leur famille. Ce qui me semble plutôt cruel, puisque ça veut dire qu'on peut faire venir un travailleur étranger ici pendant 4 ans sans qu'il ne puisse vivre avec sa famille. Il ne peut y retourner que sporadiquement. Mmh. Et alors qu'on a besoin de ces travailleurs-là sur une base à long terme et on a besoin aussi de leur famille pour venir s'intégrer dans nos écoles, prendre part à nos activités sociales et culturelles, contribuer à notre vie, puis leurs conjoints, conjointes, souvent, s'ils le désirent, peuvent facilement se trouver des opportunités de travail. Donc, on revient au discours hier du trône, c'est une des choses qu'on n'a pas vues dans les requêtes du gouvernement, c'était de simplifier, d'alléger les procédures d'immigration, alors qu'on en a un criant besoin et que c'est un facteur de relance économique. Et ça, malheureusement, c'était pas dans le gouvernement ne semble pas réaliser qu'il aggrave la situation avec la lourdeur qui s'installe pendant la pandémie, plutôt que, par exemple, de favoriser là, des mesures plus simples. Et moi, je dois dire qu'au bureau ici, on est débordé actuellement.
Okay.
De travailleurs qui ont des difficultés, d'employeurs qui ont des difficultés à faire venir des gens, de travailleurs qui voient les délais expirer et qui ont de la misère à obtenir les renouvellements. Puis pourtant, ces gens-là font un travail là, formidable là, dans nos entreprises.
Mais généralement, ils apprennent le français, à moins qu'ils arrivent au Québec et s'en aillent dans d'autres provinces. Ils finissent par apprendre le français d'une manière ou d'une autre. La CAQ vise de s'assurer de meilleures façons de ça avec des lois qui arrivent là, récemment.
Oui, effectivement, Guillaume, il faut quand même comprendre qu'un arrivant, par exemple, si je prends un travailleur mexicain qui vient travailler, par exemple, à Sainte-Sabine, chez Rotobec, c'est sûr que la première génération, elle ne pourra peut-être pas là devenir s'exprimer comme le faisait Molière à l'époque du siècle des Lumières. Là. Donc, il faut quand même être pratique et être conscient que le processus d'immigration, d'intégration peut se faire sur une ou deux générations, bien entendu. Vous voyez, moi, là, je suis 5e génération d'Irlandais. Donc, avant d'arriver à avoir une personne qui est bien intégrée au niveau linguistique, parfois, au moins, il faut au moins passer à la première génération qui est née au pays. Pour les premiers arrivants, ben, ça va toujours être des accents assez forts. Peut-être pas une maîtrise aussi complète qu'on peut le souhaiter, mais fonctionnelle.
Ouais.
Et là-dessus, il ne faut pas non plus tomber dans le zèle et l'exagération de s'attendre que d'un travailleur qui est dans une entreprise manufacturière de Bellechasse s'exprime comme un poète.
De grande qualité, on comprend. On y va avec deux petites dernières dans le style libre, pour ne pas dire freestyle, et une des deux est justement le franglais. Considérez-vous, c'est en montée, le hip-hop qu'on joue à CGMD joue beaucoup là-dedans d'ailleurs. Pensez-vous que c'est une menace pour le français au Québec?
Non, je crois que la langue évolue. La meilleure preuve, c'est que notre langue évolue différemment ici au Québec de la manière dont elle a évolué en France. C'est ce qui fait qu'on a des accents. C'est sûr, je pense qu'il faut être vigilant avec les anglicismes, avec une dégradation un peu de nos paramètres linguistiques, mais quand même que la langue soit vivante, ça, c'est indéniable. Qu'on subisse des influences nord-américaines, c'est un peu aussi incontournable.
Ouais.
Mais je me console parce que parfois, on voit que même les Français ont de la misère à préserver leur langue.
Ouais. Donc, ils sont peut-être pires. Ils sont peut-être pires. Et les anglophones se font un plaisir insoupçonné de prendre des expressions françaises et d'intégrer ça à leur langage. Alors, c'est sûr, il ne faut pas être trop zélé, j'aime le propos. Et pour ce qui est du français écrit, il y a aussi des zélés là-dessus. Personnellement, je pense que ça démontre une capacité à s'astreindre. Les gens qui vont apprendre le français, qui est la deuxième langue la plus difficile à maîtriser à l'écrit au monde. Mais quand même, entre les deux, le français écrit au Québec, votre vision de ça, est-ce qu'on est, vraiment mauvais? Est-ce qu'on est à peu près où on devrait être? Puis qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer?
Bien, on dit que je crois qu'on a tout intérêt à encourager une bonne maîtrise de la langue française écrite parce que c'est premièrement au niveau de la discipline, c'est extraordinaire.
Voilà.
J'ai encore de la misère avec mes participes passés, mais ceci dit, c'est une richesse. Puis je dirais aussi, je pense que aussi quand on apprend une langue, on en vient à l'aimer. Et si on aime la langue française, bon, on va en prendre soin, puis on va s'efforcer, je dirais, de s'exprimer autant de façon verbale qu'écrite de manière adéquate.
C'est très bien dit et ça fait une belle finale pour notre entretien. Stephen Blainey, un grand merci et à la prochaine. Au plaisir de se jaser en français. Merci.
En français, de sujets d'actualité et qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup, Guillaume, et puis ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
Partagez. À la prochaine.
Salut. Bye-bye.
Merci beaucoup.